Vous êtes bien sur Radio Bartas. Voici l'émission Agriculture ou Bartas. L'agriculture. L'agriculture a-t-elle encore un avenir dans notre territoire? Et lequel? Cet avenir, imaginons-le, créons-le, partageons-le dans Agriculture ou Bartas. La seule émission qui bouge les Bartas pour ouvrir un espace d'expression sur l'agriculture et les initiatives qui s'y passent. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute d'Agriculture ou Bartas. Alors aujourd'hui, c'est le dernier numéro d'une série de 10 émissions avant de prendre une petite pause estivale. Alors toutes ces émissions ont pu vous permettre jusqu'à présent de découvrir des initiatives destinées à dynamiser l'agriculture locale et faire que ce secteur demeure un secteur moteur de l'activité économique et un marqueur de notre identité. En effet, comment imaginer ne plus avoir d'agriculture? C'est ce qui a valu d'ailleurs le titre de cette émission Agriculture ou Bartas. Alors, pour faire un bilan, nous avons évoqué durant ces émissions plusieurs sujets, plusieurs démarches qui aujourd'hui poursuivent leur cours. Souvenez-vous, nous avons parlé de laine, comment valoriser la laine localement. Vous aviez entendu quelques éleveurs et artisans motivés pour créer des choses ensemble, mutualiser des outils de travail, des coûts de transport, animer des activités pédagogiques autour de la laine, etc. Ce travail se poursuit et même un groupe d'éleveurs ayant des brebis de race Rayol sur le secteur du Vigan et du Mont-Aigoual est également dans cette réflexion. Il faut signaler enfin que le Parc National des Cévennes a recruté une stagiaire pour appuyer ce travail et permettre que des actions se structurent davantage. Nous avons parlé aussi de la sauvegarde de notre châtaigneraie, avec des enjeux importants pour la production fruitière notamment, et l'intérêt actuellement de réhabiliter des vergers par la réalisation d'opérations d'élagage et de greffage. En effet, c'est le bon moment d'entreprendre ces travaux pour faire face notamment à l'arrivée continue du cynips. Vous savez, cet insecte qui entraîne des baisses de rendement importantes au niveau de la production. C'est important de le faire maintenant puisqu'il faut compter plusieurs années avant d'espérer un retour en production des châtaigniers. L'intérêt du châtaignier est également intéressant pour le bois, notamment pour la fabrication de piquets, pour réaliser des clôtures, ou bien pour faire du bois bûche. Nous en avions parlé notamment avec Nathalie Trémel qui anime la charte forestière de territoire. Plus globalement, nous avons essayé de montrer comment agriculture et forêt peuvent trouver des complémentarités et quel intérêt pour les agriculteurs d'exploiter davantage leurs espaces forestiers. Nous avions montré d'autres pratiques et illustré avec des exemples concrets chez des agriculteurs. Par exemple, des agriculteurs faisaient de l'exploitation forestière ou pratiquaient le sylvopastoralisme. Alors, il faut signaler que le 26 septembre prochain à Florac sera organisé par la Fédération départementale des CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel en commun, une journée destinée à parler justement de tout cela et à présenter une série de matériels utilisables par des agriculteurs pour travailler le bois. Durant ces émissions, nous avons aussi relayé le forum sur le foncier agricole en Cévennes qui s'est tenu le 13 février dernier à Cassagnas et qui a marqué un temps fort pour susciter une grande mobilisation sur cette question puisqu'on connaît l'enjeu primordial de l'accès au foncier pour développer l'agriculture. Alors c'est un travail de longue haleine qui va se poursuivre de plusieurs façons, notamment il y aura une formation et une sensibilisation accrue des élus, notamment sur les types de contrats qui existent, des contrats entre propriétaires et agriculteurs. C'est important de les sensibiliser sur ce sujet puisqu'il y a eu une demande exprimée de la part des élus. D'autre part, l'intérêt aussi de les sensibiliser sur les plans locaux d'urbanisme, notamment pour préparer les futurs plans locaux d'urbanisme qui se feront à l'échelle intercommunale à l'avenir. C'est un enjeu important pour conserver les terres agricoles et prendre en compte aussi notamment l'enjeu agropastoral. Alors au niveau de la communauté de communes Florac Sud-Lozère, une rencontre directe avec des propriétaires est également prévue durant la période estivale sur des secteurs identifiés, par exemple à Vébron et Florac. Et ça, c'est une initiative donc, qui se fait dans le prolongement de la démarche terra rurale engagée par les élus, qu'on a pu aussi présenter au cours de la première émission. Voilà, mais encore, rappelez-vous, la belle dynamique qui a été présentée autour des circuits courts et de l'approvisionnement des cantines publiques et scolaires auprès de producteurs locaux. Et dernièrement, l'entretien avec Sandrine Lagloire sur l'inscription des Causses et Cévennes au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les paysages et la culture liés à l'agropastoralisme et comment nous pouvons être fiers et tirer parti de cette reconnaissance. Vous observerez donc que nous ne manquons pas de ressources et que toutes ces initiatives contribuent à construire l'agriculture de demain. Et il y en a d'autres, et il y en aura à l'avenir, mais cet avenir est fragile. Et quand je me projette dans cet avenir, j'ai des craintes. Et oui, je suis inquiet de savoir de quoi nous parlerons dans quelques années. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser si aujourd'hui je ne parlerai pas d'initiatives concrètes, quoique, mais plutôt de menaces qui pèsent sur notre monde agricole. Car il est important de prendre en compte cet environnement et d'avoir conscience des conséquences réelles qu'il peut engendrer à tous les niveaux. Oui, aujourd'hui, j'ai besoin d'exprimer ce malaise. Ce malaise commence par un ressenti général, l'inquiétude des agriculteurs, leur nervosité, leur lassitude, la peur du lendemain. Il y a plusieurs explicatifs. Par exemple, les procédures administratives lourdes et nombreuses, les incertitudes liées aux évolutions des aides de la PAC, ou encore, pour incontournable qu'elles soient, la présence du loup. Ce climat nous amène à nous interroger sur notre capacité à installer des agriculteurs ou assurer les transmissions de fermes, tout simplement à donner confiance. Sans oublier aussi l'incertitude liée actuellement à la non-connaissance et l'attente des programmes de financement, ce qui ne facilite pas la construction et la consolidation d'actions locales. Ensuite, des craintes reposent particulièrement sur les conséquences de la réforme de la PAC, pour les territoires ruraux difficiles notamment et pour les petites fermes qui comptent en Cévennes. Vous avez certainement déjà entendu parler des règles d'admissibilité des surfaces. L'évolution de l'assiette de surface éligible au soutien de la PAC ne reconnaît pas l'intégralité des parcours et ne reconnaît que modérément les châtaigneraies ou chênaies, alors que ces surfaces devraient être prises en compte en intégralité. En effet, les ressources fruitières et des châtaignes et des glands sont la base de l'alimentation des troupeaux de l'automne à la sortie de l'hiver. D'autre part, si cette pondération se justifie sur les aides à la surface du premier pilier, il n'est pas cohérent qu'elle soit étendue à l'ICHN, l'indemnité compensatoire de handicap naturel, qui est une mesure du second pilier de la PAC et dont l'objectif est justement de compenser les difficultés d'exploitation des surfaces de montagne. Alors, pour traduire cette inquiétude, on peut rappeler tout de même qu'une motion relative aux modalités d'attribution des aides européennes de la PAC a été adoptée au début du printemps par les élus de la communauté de communes Florac Sud-Lozère, ainsi que par d'autres collectivités concernées avoisinantes. Mais tout ceci n'est presque rien au regard de ce qui nous attend si les traités transatlantiques de libre-échange qui sont actuellement en négociation venaient à être ratifiés. Si vous êtes fidèle auditeur de Radio Bartas, vous avez déjà entendu parler du TAFTA et du CETA. J'attire aujourd'hui l'attention sur ces traités, car les conséquences sur l'agriculture seront très importantes et pourraient radicalement remettre en cause notre production agricole. Et ça, il faut en avoir pleinement conscience. Ainsi, je vous propose d'écouter dans cette émission quelques extraits d'une conférence donnée par Frédéric Vial le 5 juin dernier au Puy-en-Velay. Alors Frédéric Vial est un juriste, il est docteur en droit, et membre également du collectif national Stop TAFTA. Frédéric Vial a travaillé pendant de très nombreuses années sur les questions de libre-échange et il nous rappelle ici la nature de ces accords commerciaux et illustre plus précisément l'impact pour l'agriculture. Alors ça dure un petit quart d'heure, je vous propose de l'écouter.
Alors, vous avez bien fait de venir ce soir parce qu'effectivement, il n'y a pas un seul projet d'accord dans les tuyaux, il y en a deux. Il y a effectivement le projet d'accord entre l'Union européenne et les États-Unis, celui dont vous avez entendu parler sous l'acronyme TAFTA, qui n'est pas son nom officiel. L'acronyme TAFTA est un acronyme anglais qui a été mis en place par le groupe de résistance. Hein. Le nom officiel, c'est le Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Mais bon, PTCI, ça ressemblait à rien, donc on a quand même choisi autre chose, et puis il ne s'agit pas réellement d'un partenariat. Et vous avez aussi un autre accord, qui alors lui est beaucoup plus avancé, puisque celui-là, il est déjà signé. Il est déjà signé entre l'Union européenne et le Canada. Il devrait ce mois-ci, là, au mois de juin, être présenté au Conseil des ministres de l'Union européenne pour savoir s'il considère si oui ou non cet accord correspond au mandat qui a été donné aux négociateurs voici 5 ans, et ensuite passer devant la ratification du Parlement européen. Donc nous avons là une fenêtre de tir tout à fait courte. Il faut regarder les deux en même temps, tout simplement parce que et le TAFTA et le CETA portent les mêmes mécanismes, exactement les mêmes mécanismes, les mêmes objectifs. L'intrication aussi des économies entre le Canada et le TAFTA est importante, mais surtout, le grand intérêt du CETA, c'est que le CETA est publié. Donc nous avons exactement le détail. On n'a pas tous les détails de ce qui se trame concernant le TAFTA, puisqu'on est en cours de négociation et que les négociations sont relativement secrètes. Alors, si vous avez cette curiosité d'écouter un tout petit peu la Commission et le gouvernement, la Commission et le gouvernement vous disent qu'on ne s'inquiète pour rien et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, dans la mesure où, en effet, le commerce est massif entre l'Union européenne et les États-Unis. Et de fait, le commerce est massif entre l'Union européenne et les États-Unis, puisque, à eux deux, ils représentent un tiers du commerce mondial. Chacun est le premier partenaire de l'autre, et que, à eux deux aussi, ils représentent, ces deux zones représentent la moitié du produit intérieur brut mondial. Donc on a affaire à des mastodontes qui déjà commercent énormément, et les relations commerciales étant déjà intenses, on n'aurait pas de raison de s'inquiéter de ce type d'accord, qui est, si on en croit la Commission et le gouvernement, qui est juste un accord d'harmonisation du commerce. Quant au CETA, le gouvernement et la Commission n'en parlent pas, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. En fait, d'accord de commerce, il s'agit, vous allez le voir, d'un accord qui porte sur les normes et qui, en réalité, sont des menaces tout à fait considérables aux principes démocratiques fondamentaux. 1995 est créée l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, qui fait faire ce saut quantitatif, fait aussi un saut qualitatif. Elle fait un saut qualitatif parce qu'il s'agit de promouvoir la libéralisation du commerce international, et un saut quantitatif parce que presque tous les États du monde sont concernés et l'OMC vise à couvrir l'ensemble des activités humaines, pratiquement. Il n'y a que trois secteurs qui échappent à l'empire de l'OMC. Les armes, la vente des armes qui sont traitées dans d'autres textes, le nucléaire traité ailleurs, et armée, police, justice, les services régaliens de l'État que les États ne sont pas obligés, du fait des lois de l'OMC, de libéraliser. Tout le reste est soumis à l'objectif de l'OMC, l'objectif qui concerne à libéraliser le commerce, arriver au plus haut niveau de libéralisation possible, c'est-à-dire arriver au plus haut niveau de concurrence possible. Donc, interdiction des mesures intérieures qui visent explicitement à être des distorsions. Par exemple, la subvention. La subvention, décision publique, interne, est par définition une distorsion en commerce. C'est pour ça qu'elle est faite, d'ailleurs. Puisque une puissance publique qui confère une subvention à une entreprise ne la confère pas à une autre entreprise. Donc il y a distorsion. Il y a une discrimination, par définition, dans la subvention. La subvention subventionne un certain type d'activité pour en décourager d'autres. Donc, il y a là, dans l'œil du viseur de l'Organisation mondiale du commerce, un certain nombre de mesures, dont celle-ci. Mais ça va plus loin. Ça va aussi vers l'interdiction de ce qu'on appelle les obstacles au commerce ou les obstacles techniques au commerce. C'est-à-dire des mesures intérieures qui ne sont pas explicitement faites pour distordre le commerce ou pour prendre des mesures discriminatoires sur le plan commercial, mais qui ont ça comme effet. Eh bien, par exemple, les mesures sanitaires ou phytosanitaires peuvent être considérées comme des mesures distorsives au commerce. Un exemple que vous connaissez tous et toutes, vous l'avez tous entendu, cette histoire-là, l'histoire du bœuf aux hormones. Bon, ça, vous avez vu ce qui s'est passé. Les États-Unis, le Canada fabriquent du bœuf aux hormones. Bon, il se trouve que l'Union européenne refuse qu'il y ait une consommation de bœuf aux hormones, donc de fabrication, donc d'importation sur son territoire de bœuf aux hormones, pour des motifs sanitaires. C'est-à-dire que l'Union européenne a considéré que sur le plan sanitaire, c'était pas bon pour les populations de manger ça. La question n'est pas de savoir s'ils ont raison ou pas. En tous les cas, c'est la décision qui a été prise au niveau de l'Union européenne. Les États-Unis et le Canada veulent bien exporter leur bœuf aux hormones. Et dans le cadre donc de l'OMC, ont obtenu la condamnation de l'Union européenne, puisque un des coups de génie, et une des choses aussi qui fait qu'il y a eu un saut qualitatif avec l'OMC, un des coups de génie de l'OMC, ça a été de créer un organe de règlement des différends, c'est-à-dire une espèce de quasi-juridiction internationale qui traite des questions commerciales quand un État considère qu'un autre État ne respecte pas les règles du commerce international, il peut obtenir sa condamnation. C'est ce qui s'est passé avec le bœuf aux hormones. Ou pour être très précis, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis et le Canada ont été autorisés à augmenter leurs tarifs douaniers sur un certain nombre de produits à hauteur de 120 millions de dollars par an pour les États-Unis et une petite vingtaine de millions pour le Canada, tant que l'infraction bœuf aux hormones continuait du côté de l'Union européenne. À cette occasion de cette affaire, on voit deux choses. La première, on voit émerger un principe qui est celui de l'équivalence des produits. Et ce principe est toujours actuel. Il est là, posé maintenant, dans tous les accords qui viennent ensuite. Le principe de l'équivalence des produits, c'est redoutable de simplicité. Un bœuf est un bœuf. Un bœuf aux hormones ou un bœuf qui a brouté de l'herbe, c'est la même chose. C'est le même produit. Il n'y a strictement aucune raison de l'interdire. D'interdire un des deux. Mais vous pouvez décliner ça, bien entendu. Après, vous pouvez décliner un maïs, c'est un maïs, qu'il soit OGM ou pas OGM, etc., etc. Donc, principe d'équivalence des produits. Et autre chose, les accords de commerce, désormais accords de libre-échange, ne sont plus des textes qui flottent dans les limbes sublimes comme ça des organisations internationales. Ce sont des textes qui ont des conséquences concrètes, puisqu'effectivement, on voit qu'il y a non pas des amendes, mais des compensations ou une surtaxation de certains produits à la suite de décisions qui sont prises dans le cadre de l'organisation de règlement des différends de l'OMC. C'est très bien qu'on parle des éleveurs parce que c'est vraiment le maraîchage qui s'en prend en pleine tête, hein, cette histoire d'accord. C'est ces deux secteurs-là en premier qui vraiment se prennent le truc. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait encore actuellement des pics tarifaires qui existaient encore un petit peu entre les États-Unis et l'Union européenne qui portent sur un certain nombre de produits agricoles précisément. Ces pics tarifaires ont vocation à être érasés, à disparaître totalement. Et par ailleurs, ce que mettent en place ces accords, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle des normes. C'est-à-dire que si un produit est fabriqué d'un côté, il doit être accepté sans autre contrôle de l'autre côté. Il se trouve que les États-Unis, le Canada aussi dans une moindre mesure, ont décidé d'avoir des formes de production intensives et extensives en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont des productions notamment de céréales, ils ont des productions notamment de viande, extrêmement intensives, qui passe par une concentration. Alors, ils ont de la place, donc eux, c'est des dizaines de milliers de têtes, dans des fermes-usines, où les animaux sont élevés le plus rapidement possible, à coup de piqûres anabolisantes diverses et variées, et d'antibiotiques, parce qu'elles en soivent tellement qu'en même temps, elles risquent aussi de mourir. Donc il y a les anabolisants et les antibiotiques. Au final, on a des carcasses quand les animaux sont abattus pour éviter, comme elles sont habituées, avec le moins de précautions possible pour que ça coûte le moins cher possible. Il faut asperger les carcasses de tout un tas de produits fongiques et autres cochonneries pour enlever les bêtes qui sont encore dessus, enfin les microbes qui sont encore dessus. Et on a des produits de viande, si on peut rappeler ça encore comme ça, qui sont désastreux sur le plan de la qualité gustative et autres, mais moins cher. Donc, première étape, abaissement des droits de douane, arrivée des produits. Alors là, on est sur des négociations de quotas de dizaines de milliers de tonnes supplémentaires par an sur le bœuf et sur le porc et sur le poulet. Hein. C'est vraiment les trois trucs. Ces produits-là arrivent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez, première étape, un certain nombre d'éleveurs et de maraîchages, bon, mais éleveurs en tous les cas, qui disparaissent. Concentration. Et ensuite, ce sont, après qu'il y ait eu concentration, ou en même temps qu'il y a eu concentration, les représentants des éleveurs, ceux qui ont survécu, qui survivront en créant des fermes-usines, et de plus en plus, qui réclameront eux-mêmes un abaissement des normes au mécanisme de coopération réglementaire. Ce sont nos producteurs qui réclameront de pouvoir fabriquer comme les Américains le font. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pour l'agriculture. Vous pouvez parler de la même chose sur les céréales. À la différence près, c'est que la concentration, il n'y a plus besoin de la faire. Elle est faite. En tous les cas, oui. En France, elle est faite. Là, c'est industriel. Maintenant, c'est fini, tout ça. Alors donc, on va doucement vers la question qui est « Mais est-ce que la PAC va réussir à corriger tout ça ?» C'est-à-dire à maintenir l'agriculture familiale à grands coups d'anabolisants, justement, puisqu'on en parlait à l'instant. C'est-à-dire de subventions. À la marge. C'est-à-dire que la PAC ne va pas disparaître. Les subventions ne vont pas disparaître. Les subventions à l'agriculture ne vont pas disparaître. Tout simplement parce que les États-Unis en ont et qu'ils ne la feront pas disparaître et que ce n'est pas sur la table de négociation. Donc ça ne disparaîtra pas. Mais tout au plus, la PAC réussira à aménager des choses à la marge. Sur la tendance de fond, non. Et on aura une industrialisation beaucoup plus forte, une concentration et un abandon de filière. Évidemment. Là, il y a des abandons de filières viande qui vont être totalement évidentes dès lors qu'elles refuseront de passer par le mécanisme de ferme-usine. Et donc, il y a des endroits où il n'y aura plus du tout de filières d'élevage, par exemple. Alors peut-être que... Enfin, je veux dire, le fermier qui arrive à regrouper autour de lui les 10 ou 20 clients qui résistent et qui veut continuer à faire sa viande et tuer son cochon lui-même, il ne va pas disparaître. Il ne faut pas exagérer. Il ne va pas disparaître. On arrivera toujours à faire de la résistance, mais à la marge. C'est-à-dire que 97% des gens, ce sera l'industriel, et ceux qui arrivent à s'organiser, à en faire leur militantisme de tous les jours, ils pourront peut-être y arriver, s'ils sont bien organisés. Mais à la marge uniquement.
Ancêtres endormis, campesino, campesino, porti canto, campesino. Les uns sont terme nu, d'autres la racine du froment, d'autres pierres répandues. Tout le long de la rivière, campesino, campesino, porti canto, campesino. Si souvent, oui, si souvent, bien au-delà des semis, dans la forge des soirées. Ils sont allés tromper leurs cris. Campesino, campesino, porti canto, campesino. Aux saintes missions de l'homme, neige un seul à semer la vie, vivre à bien tremper son cri. Campesino, campesino, porti canto, campesino.
On est toujours dans l'émission Agriculture ou Bartas. On vient d'écouter un morceau Campesino qui est interprété par Tulou. Et nous avons donc entendu précédemment Frédéric Vial nous présenter brièvement les traités transatlantiques. Et vous aurez compris les dangers qu'ils font peser sur l'agriculture. Par exemple, sur les possibilités pour les collectivités de promouvoir un approvisionnement local, sur la privatisation des semences, ou encore sur la remise en cause de signes officiels de qualité, que ce soit des labels, des AOP, bref, tout ce qui permet de différencier les produits. Le danger est donc réel et doit nous pousser à être plus que vigilants. En témoignent les prises de position de quelques communes et communautés de communes de notre territoire qui se sont symboliquement déclarées zone hors TAFTA, pour contester ainsi ces projets d'accord. Donc, des actions de mobilisation contre ces projets doivent se poursuivre. Mais cette résistance fait appel aussi, vous l'avez entendu, à une multitude d'initiatives allant à contre-courant de ces projets. Et c'est possible. Ces alternatives sont nécessaires pour maintenir à terme un tissu agricole vivant. Il reste tant de choses à construire, tant de démarches nouvelles à présenter. Pour cela, il faut la mobilisation et l'imagination de tous. C'était donc le 10e numéro d'Agriculture ou Bartas. Il est temps pour nous de nous quitter. Les rediffusions se feront comme indiqué dans la bande-annonce qui suit. Pour ma part, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. L'agriculture. L'agriculture a-t-elle encore un avenir dans notre territoire? Et lequel? Cet avenir, imaginons-le, créons-le, partageons-le dans Agriculture ou Bartas. Chaque semaine pair le samedi à 17h, chaque semaine impair le mercredi à 10h. Agriculture ou Bartas? La seule émission qui boude les Bartas pour ouvrir un espace d'expression sur l'agriculture et les initiatives qui s'y passent.